pour vous, voici Page après page avec Gisèle. Une rencontre intimiste avec un auteur.
Vous êtes si jolie quand vous passez le soir à l'angle de ma rue. Parfumées et fleuries avec un ruban noir, toutes de bleu vêtues. Quand je vous vois passer, j'imagine parfois des choses insensées, des rendez-vous secrets au fond d'un jardin froid, des serments murmurés. Le soir dans votre lit, je vous devine nu, un roman à la main. Monsieur Audiberti vous parle d'inconnu, vous êtes déjà loin. Vos rêves cette nuit, de quoi parleront-ils? Le soleil fut si lourd. Demain c'est samedi, je guetterai fébrile votre sortie du cours. Dimanche sera gris, je ne vous verrai pas, pas avant lundi soir. Où serez-vous parti? Qui vous tiendra le bras? Que vous fera-t-on croire? Je crois que je vous dois de vous faire un aveu, petite, écoutez-moi. C'est la première fois que je suis amoureux de tout un pensionnat.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver dans Page après page. Ce mois-ci, nous rencontrons Carine Lottin. Carine Lottin, bonjour.
Bonjour Gisèle, bonjour à tous.
On vous connaît puisque vous nous aviez déjà présenté un livre.
Oui.
Et là, vous allez nous présenter une suite. Il s'appelle « J'aurais aimé ». C'est aux éditions « Bot Book on a Man ». Ce livre, c'est la suite d'un livre que vous nous aviez aussi présenté,
oui.
Ici sur cette antenne,
oui.
Et s'appelait « Voleur de poules ».
C'est ça, en 2016.
Carine, vous êtes lafitoise, donc tout près de Rieux. Vous nous avez proposé cette belle musique que l'on vient d'entendre. Il s'agit de Maxime Le Forestier. Pourquoi ?
Maxime Le Forestier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que, d'abord, c'est une image de la variété française, c'est un pilier. Je ne dirais pas que c'est le taulier, parce que le taulier, c'était Johnny, donc je ne vais pas faire tous ces mélanges. Mais bon, il se trouve quand même que c'est une grande figure de la chanson, oui, française, un monument culturel qui écrit avec une plume qui peut être aussi acerbe que douce. Et Fontenay aux Roses, ce petit, je ne sais pas comment dire, cette petite grivoiserie si joliment comptée, mm-hmm, en fait, c'est presque, entre guillemets, de la jalousie. J'aimerais écrire aussi bien. Voilà pourquoi.
Vous n'écrivez pas trop mal, je vous rassure.
Merci, c'est très gentil.
Donc, vous nous revenez aujourd'hui avec la suite du Voleur de poules, donc, comme vous le disiez, en 2016. Ce livre a une couverture très sobre. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ?
Oui. La maison d'édition avec laquelle je travaille propose un panel de couverture. Donc, je cherchais quelque chose qui, comme pour le premier, qui était aussi très sobre, c'est une couverture marron bordeaux, ne dévoile rien. Parce que moi, je suis déjà sensible aux couvertures des livres. Ça peut être un argument chez moi de prendre un livre ou pas, d'aller regarder la quatrième de couve pour voir ce qui se dit.
Oui.
Mais si déjà la couverture ne me plaît pas, il y a des chances pour que je n'aille pas voir la quatrième.
D'accord.
Donc, je voulais quelque chose de sobre pour ne pas infléchir les gens dans leur choix.
Oui.
Et qui se disent, ah mais ça veut dire que peut-être dedans il y a ceci qui sera traité ou cela. C'est en ce sens que j'ai choisi quelque chose d'assez sobre.
Pas de numéro de page ?
Oui, ça c'est une erreur qu'on m'a fait constater, en effet. Je ne m'en étais pas rendu compte lors de la relecture.
Oui.
C'est une erreur de ma part.
Ah non, mais pourquoi pas ? Il y a juste les chapitres.
Oui.
Et donc...
Mais c'est une erreur, ce n'était pas voulu. Et je m'en suis même pas rendu compte à la relecture. Il n'y a rien à cacher, c'était ça.
C'est pas non plus justifié, c'est juste comme ça, comme si c'était une vie de tous les jours.
Exactement.
Ça, c'est voulu.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, tous mes romans ont un peu cette marque de fabrique. J'aime bien le style, le drame familial. C'est quelque chose qui, dans lequel je me sens bien, avec des rebondissements, des coups de théâtre, des histoires d'amour, et puis tout d'un coup, paf, quelque chose de grave qui se déroule. Donc c'est vrai que j'aime bien, comme si c'était écrit au fil de l'eau, comme si on racontait une histoire. Mm-hmm. Le but pour moi, ce n'est pas de faire un discours, ce n'est pas de faire un texte docte, bien cadré, c'est ça ressemble à la vie finalement. Je vous raconte une histoire et la vie, elle est pas cadrée, hein.
Eh non.
Voilà. Hein.
L'écriture est-elle devenue un besoin pour vous maintenant?
Oui. Alors je vais répondre oui, absolument. Il s'est passé 3 ans entre Voleur de poule et J'aurais aimé. Et en fait, ça a correspondu à un instant de ma vie où j'ai eu de gros problèmes. Je ne pourrais pas le spécifier parce que...
On n'est pas là pour ça.
C'est ça. Et puis, de toute façon, ça pourrait m'impliquer des problèmes que de les évoquer. Donc, je ne vais pas en parler de ces problèmes que j'ai eus. Mais ça m'a paralysée complètement en termes de sérénité. D'accord. Et je n'ai pas pu écrire. Et j'ai eu comme... C'était pas une frustration. C'était comme une rage. De ne pas pouvoir le faire. Ce n'est pas de la frustration. La frustration, on peut... Il y a comme une sensation, je ne sais pas comment dire, de malaise. Oui. Là, c'était vraiment de la colère de ne pas pouvoir le faire. Et finalement, retrouvant cette sérénité perdue, j'ai retrouvé aussi la sérénité d'écrire. Non, ça n'était pas un besoin, mais oui, ça l'est devenu. Parce D'accord. que maintenant, ça fait partie de cette sérénité retrouvée. D'accord. Comme un peu une Madeleine de Proust à rebond, quoi, à rebours. Oui.
Lors de votre premier passage en 2016, vous nous aviez dit avoir été marqué lors d'un stage que vous aviez fait en prison. Alors, oui. Côté oui. maton, on va dire.
Oui, oui, hein? Oui, c'est ça.
Est-ce que ce sont, parce que je sais eu cette impression, est-ce que ce sont encore ces souvenirs
Bien sûr.
Qui ressurgissent
Tout à fait.
Dans ce livre?
Tout à fait, parce qu'en fait, quand cette suite m'a été demandée, hein, je ne l'ai pas élaborée moi, ça a été parce que Voleur de poule a plu à pas mal de personnes que la suite m'a été demandée. Donc il a fallu travailler, regarder lequel des personnages je pouvais travailler pour en faire une suite qui soit intéressante, quoi. Mm-hmm. Qui ait un corps, qui ait des personnages intéressants, intelligents, et qu'on ait envie de savoir ce qu'il en devient. Dans un premier temps, je me suis un peu consacrée sur la famille de la victime.
Oui.
J'allais tomber dans un côté terroir que je ne dénigre pas, mais ça allait un peu être ronronnant. Et je me suis dit, je vais axer la démarche plutôt vers le détenu, donc le meurtrier. Et évidemment, c'est là que je me suis rendu compte que non, je n'avais pas tout réglé dans Voleur de poule sur cet épisode de ma vie qui a été extrêmement traumatisant.
Oui, je m'en suis rendu compte.
Extrêmement traumatisant. J'ai encore, quand j'en parle, je ne le vis plus comme avant, hein, parce que bon, c'est bon, on grandit, j'avais 20 ans, j'en ai 50, c'est bon. Mais il ne reste pas moins qu'il y a toujours cette... J'entends les clés. Oui. Qui tape sur les barreaux.
Les images qui restent.
Ah oui, très. Les bruits. Oui. Les bruits, c'est cris en permanence. Oui. On a assisté, peut-être vous l'avais-je dit, quand j'étais venue pour Voleur de poule. Nous étions 4 ou 5 stagiaires avec les surveillants pénitentiaires. On nous avait mis dans un sas, entre deux portes grillagées. Mm-hmm. Et donc, bon, déjà, le bruit des clés pour fermer une porte. Et avant d'ouvrir l'autre, il nous disait, on va attendre ici, nous dit le surveillant pénitentiaire. Donc nous, oui, d'accord, pas de problème. Et là, nous voyons arriver une cohorte de détenus qui a hurlé à notre vue. Nous étions quatre femmes, enfin quatre jeunes femmes, et il y avait deux jeunes hommes, je crois, qui nous accompagnaient. Mais je pense qu'ils n'avaient pas vu de femmes depuis un moment. On va se parler clair et on va s'arrêter là. Et je pense que ça a été... mais c'est horrible, cette vision-là, on s'est senti des proies. Mm-hmm. On s'est senti des proies. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de m'en aller. J'avais des bracelets... au poignet, comme de juste, j'ai vu le moment où en arrivant, je n'arrivais pas à enlever un bracelet que j'avais depuis des années. Le matin, j'ai vu le moment où il me disait de me couper le poignet parce qu'il ne fallait pas que ça sonne sous le portique. Enfin, on est vraiment dans un monde...
Un autre monde.
Exactement. Qui n'est ni assurant, ni rassurant, ni confortable. Et même, y a des règles. C'est vrai, il en faut, mais ça évite la jugeote aussi, hein, à un moment donné. Donc, c'est vraiment quelque chose dont je me suis enfuie.
D'accord.
Quand je suis sortie, après cette journée-là, du centre de, c'était le centre de détention de Muret, quand je suis sortie de là, j'ai récupéré ma voiture, mais j'étais tétanisée sur mon volant. Je n'en pouvais plus, je cherchais l'air, c'était je ne pourrais pas continuer. Et c'est vrai qu'avec Voleur de poules, j'avais initié un peu cette catharsis.
Oui, tout à fait, je m'en souviens très bien.
Et j'ai fini, je pense, ça y est, parce que le sujet est épuisé, parce que je n'ai plus envie d'écrire là-dessus.
Oui.
Donc pour moi, je pense que ça y est, je l'ai sorti et je l'ai donné à mes lecteurs.
T'as mieux ?
Ma bosse, je l'ai donné à mes lecteurs.
Pourquoi vous avez choisi le centre de Foix et de Carcassonne ? Est-ce que c'est pour rester dans le sud ?
Ah oui. Oui, déjà, parce que Carcassonne, c'est un petit clin d'œil à la tante de mon mari, Claudine, qui va écouter l'émission, donc, qui est de Carcassonne, et qui me soutient depuis le début dans cette entreprise d'écriture.
Oui.
Donc, c'est le petit clin d'œil pour tati Claudine, qui habite donc à Carcassonne. Et puis, Foix, alors ça, c'est bête comme chou. Dans le cadre de mes fonctions, je me suis rendue à Foix pour faire une formation.
Oui.
Et j'ai trouvé cette ville extraordinairement jolie. Très, très, très belle. Ces allées très, très belles. Il y a un point de vue, quand il s'agit de monter un peu sur les hauteurs, il y a un point de vue extraordinaire. Je ne vous parle même pas de son château de Foix. Même la voie ferrée encaissée, comme si c'était un ruisseau, une rivière, un vrai coup de foudre pour cette ville. Donc, je l'ai posé là.
D'accord.
C'est tout.
Voilà, vous voyez, ce sont des questions bêtes qui
Non, pas questions bêtes, pas du tout.
Parce que voilà, j'ai dit, tiens, ça m'a frappé.
Oui, oui. Voilà. Oui. Et puis après, rester dans notre cru, ça, oui bien sûr.
Oui.
Oui, oui.
Vous aimez notre belle région ?
Très, très. J'en suis native, je suis du Tarn, donc je me l'aime. Après,
notre
c'est vrai
bonne Occitanie.
C'est ça. Moi, je suis plus mon Midi-Pyrénées, j'ai un peu de mal avec mon Occitanie, mais on ne va pas aller faire le débat.
L'Occitanie est très grande, donc moi, quand je parle d'Occitanie, je ne parle pas de l'Occitanie que nous venons de faire, je parle de l'Occitanie en grand.
Oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. D'accord, d'accord.
Nous allons essayer alors de ne pas trop en dire de ce livre, parce que c'est difficile avec vous de ne pas trop en dire, parce que vous en dites beaucoup trop. Et donc, on va redécouvrir Philippe, qui aspire à une vie toute simple, finalement.
Oui.
Et pourtant, il a acquis une solide réputation, dans un endroit d'ailleurs pas très réjouissant.
La débrouille.
D'où justement votre souci avec ce stage.
C'est ça, exactement.
La soixantaine, il a été transféré et libéré à Carcassonne.
Oui.
C'est peut-être un peu dur pour quelqu'un qui veut une vie, pour cette personne qui a déraillé à un moment. Et pourtant, à son âge, il paraît être rangé.
Oui.
Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu.
Je pense qu'effectivement, il est rangé. Comment dire ?
Il ne peut pas oublier cette vie d'incarcéré de toute façon.
C'est ça.
Mais il ne veut pas y retourner non plus.
Il ne veut pas y retourner non plus. Et j'ai trouvé que de le situer dans la cité de Carcassonne, justement, lui faisait comme un petit cocon un peu psychologique, qui lui permettait justement d'asseoir cette envie de se racheter une identité un peu plus, normale, un peu plus légale, quoi.
Oui. Il y a trouvé du travail, finalement, il est heureux.
Oui.
Pour lui, c'est une grande aubaine d'avoir trouvé ce travail.
Il en est conscient.
Tout à fait, oui. Et il travaille à fond.
Oui.
Il ne compte pas ses heures.
Il ne compte pas ses heures, exactement.
Il ne demande pas de salaire. Enfin, il ne demande pas de salaire. Juste son salaire, mais même s'il fait des heures sup, il ne récupère jamais.
Il le fait même avec joie, quoi.
Oui,
il
ne prend jamais de vacances.
Jusqu'à ce que ses chefs lui disent de le faire, quand même.
Voilà,
Parce que là, quand même, il y a un moment où ce n'est pas possible, quoi. Dans l'investissement, on n'en est pas moins homme.
Il est rangé. On peut dire qu'il est rangé.
Oui.
Qui est Jack qui lui donne justement cette chance ?
Qui est Jack en termes de...
En termes de personnage.
D'accord.
Parce qu'à un moment, je me suis même demandé si lui-même n'était pas un ancien détenu.
Oui. Ce personnage existe dans ma vraie vie personnelle. Je vous assure qu'il a fait plein de choses, mais il n'a pas fait de prison. Il a bien bourlingué. En fait, le personnage donc, de Jack existe dans ma vie personnelle, dans ma famille.
Oui.
Et c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé, comme je le dis dans le livre.
Oui.
Il a effectivement été géo au Club Med. Il a effectivement travaillé dans un bar-restaurant sur le pas de la Casa Andorre.
Oui.
Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup bourlingué.
Oui.
Et je crois que plus que la prison défait un homme... peut-être.
Oui.
Là, je pense que bourlinguer en refait un.
D'accord.
Et donc, quelque part, cet aspect un peu humaniste, humanitaire, qu'on peut retrouver dans ce personnage, c'est plus parce qu'il a bourlingué et qu'il a connu un peu les vaches maigres, un peu la vie au jour le jour, sans trop d'attache, mm-hmm. que justement, il veut les offrir maintenant que lui aussi en a.
Oui.
Je pense que c'est une passation, comment on va dire ça, d'assurance.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, tout à
voilà.
fait.
Donc, on est plus dans cette notion-là.
Est-ce qu'à travers ce travail salvateur pour mm-hmm. Philippe, il veut montrer qu'il est valeureux et il peut montrer ce qu'il vaut ou pas ?
Ah oui, moi je pense que c'est ça en fait. Il a tellement fait de bêtises dans toute sa jeunesse. En commençant par avoir mis enceinte une... on ne va pas
personne,
tout dévoiler,
oui.
on va dire une personne, comme ça
oui.
c'est fait. En mettant enceinte une personne et en l'abandonnant, ses parents, à son tour, l'ont abandonné. Il s'est retrouvé, son seul lien, ses seules attaches, ça a été des voyous, qui l'ont dévoyé, bien entendu. Qu'en fait, il n'a jamais su, pas peut-être prouver aux autres, mais en tout cas se prouver à lui-même
oui.
ce qu'il valait.
Oui.
Et maintenant, il essaye, je pense, par le biais justement de Jack, par le biais justement de Lucien, de montrer ce qu'il vaut pour qu'il puisse se voir lui.
Oui.
Je pense qu'ils lui servent de miroir. Regarde-toi, tu as vu ce que tu nous montres, c'est ce que tu es vraiment.
Oui. C'est très bien fait et c'est vrai que finalement, je me suis prise de passion pour ce Philippe.
Ben merci, merci. Je ne peux pas vous le faire rencontrer, oui. Il n'existe pas lui.
Et puis, au cours de la lecture, nous retrouvons Olivier, notre voleur de poules. Mm. Lui, c'est vraiment une toute autre histoire. Philippe a bien conscience des erreurs qu'il a fait, qui l'ont conduit où il a été conduit. Olivier, lui, c'est une tête brûlée, il fonce,
oui.
sans dire qui il est et ce qu'il a fait, il est vraiment malade.
Mais je pense que c'est pour ça qu'il ne pourra jamais avoir de rédemption de quoi que ce soit.
Mm-hmm.
C'est un garçon malade. Contrairement à Philippe, qui a fait acte de rédemption parce que ben, il avait toute sa tête, que là, il est malade, ce garçon. Il a une maladie sans rien dévoiler.
Oui.
Il est schizophrène, en fait.
Voilà.
Et ça ne dévoile rien que de le dire. Il est schizophrène, donc ne se soignant pas, c'est la maladie qui a pris le pas sur lui. Et il n'existe plus en tant que tel.
Oui.
Il n'est qu'une maladie qui porte un nom, quoi.
Oui, il est une maladie sur pattes.
C'est ça, exactement, exactement. Qu'il ne pourra jamais se racheter un quelconque comportement.
Oui. Nous allons faire une petite pause musicale avant de reprendre page après page. Et là, vous nous avez choisi Rose pleure.
Oui, de Gérald de Palmas, que j'ai eu la chance de voir en concert et qui m'a fait vivre cette chanson en version acoustique avec seulement sa guitare et celle de son guitariste, que les deux. Elle m'a bouleversée, cette chanson, parce que je les avais... vous êtes même plus loin que moi. Là, quand je vous parle, vous êtes même plus loin que moi. Je les avais vraiment... J'étais au premier rang et je les avais... Là, si je tendais la main, je pouvais les toucher et les voir tous les deux dans cette harmonie musicale, dans cette union musicale, cette complicité qu'on voyait circuler entre leurs deux yeux. Enfin, ouais. C'était... magique et l'émotion m'a beaucoup gagné ce jour-là et j'ai envie de faire vivre à nos auditeurs peut-être un peu cette magie-là.
Eh bien, on l'écoute.
Merci.
On dirait que c'est mal parti cette histoire. Étranglé par les sanglots, sur un banc sans maquillage et sans phare, elle s'est fait larguer dans le métro. Circuler, y'a vraiment, vraiment rien à voir. Et même si le monde vient de s'écrouler, on n'en parlera pas dans les journaux du soir, car il n'y a qu'elle qui le sait. laquelle qu'il sait. Rose pleure, toutes les larmes de son corps. Rose pleure, encore, encore. Ça me fend le cœur. Je détourne le regard. Je vais prendre mon courage à deux mains, aller m'asseoir à côté d'elle. Peut-être que ça ne servira à rien, peut-être que je vais me prendre un coup de pelle. C'est étrange comme je me sens bien plus proche des gens qui pleurent au grand jour. Les autres attendent les mains dans les poches, le prochain train, le prochain tour. Le prochain train, le prochain tour. Rose pleure, toutes les larmes de son corps. Rose pleure, encore, encore. Ça me fend le cœur. Je détourne le regard. Pas permis ou c'est mal vu, on n'aborde pas les inconnus. Il faudrait pourtant faire quelque chose. Tout le monde s'en fout ou personne n'ose. Rose pleure, toutes les larmes de son corps. Rose pleure, encore. Encore, j'ai oublié l'heure. J'arriverai en retard. Car Rose pleure. Car Rose pleure.
Rose pleure, c'était Gérard de Palmas. Merci beaucoup, Karine, de nous avoir fait partager cette musique.
Mais tout plaisir fut pour moi. Je l'ai revécu avec plaisir, moi.
Vous êtes en compagnie, donc, sur l'antenne avec moi. Nous allons continuer page après page avec ce livre « J'aurais aimé ». Il est paru fin 2019. Il n'est pas si vieux que ça.
Non,
et
non.
C'est toujours aux éditions Baud Book on Demand. Simone. Simone, je pense qu'elle est victime collatérale quelque part, même si c'est à un autre degré peut-être.
Oui.
Elle aide Aurélie.
Oui.
Est-ce qu'elle la comprend à Aurélie ou est-ce que Aurélie comprend plutôt Simone ou est-ce que c'est aussi une façon pour Simone de pardonner quelque chose? Parce que dans Voleur de poule, il y avait eu... toute une suite pour Simone qui n'avait pas été très belle.
Alors, ça peut, c'est, je réfléchis à ce que vous me dites, ça peut être effectivement un éclairage auquel je n'avais pas pensé. Mais oui, ça peut être un éclairage. Moi, ce que j'avais surtout vu dans ces deux personnes, c'est cette forme de rédemption aussi qu'il y a pour Philippe. C'est aussi cette forme de rédemption aussi vis-à-vis de ces deux femmes. La vie les a malmenées, mais elles ont fait corps. Je trouve que Simone est d'une très, très, très grande force d'avoir assumé tout ce qui lui est arrivé pendant Voleur de poule et de continuer à assumer tout ce qui lui arrive dans J'aurais aimé.
Oui.
Cette personne a, je pense, dans le cadre de Voleur de poule, a été au centre avec son mari. Ils ont aidé des détenus. Puisque oui. On peut le lire, hein. Oui. Philippe a fait partie de ses aides, Olivier a fait partie de ses aides. Donc, c'est des gens qui, je crois, sont foncièrement bienveillants. Et quelque part que Simone se tourne vers, à son tour, comme son mari l'a fait pour Olivier, qu'elle le fasse pour Aurélie, c'était normal.
Logique.
Enfin, logique. Oui. Ça m'est sorti du stylo tout seul, quoi.
Mm-hmm.
Ça ne pouvait pas faire autrement.
D'accord.
C'était logique.
D'accord.
Voilà.
Alors Aurélie, c'est pareil, on ne va pas dire qui elle est, mais elle, je trouve qu'elle est victime sur tous les fronts.
Ah oui.
Et donc, c'est une valeureuse.
Elle aussi.
Elle travaille, elle n'a pas trop de revenus, mais elle se tient à son travail, et elle y tient d'ailleurs
oui.
à son travail.
Oui.
Et pour ce J'aurais aimé, c'est un personnage clé finalement,
oui.
ou pas ?
Oui. Oui, parce que en fait, c'est un personnage secondaire, mais clé.
Oui, oui.
Mais clé. Je pense que, en fait, les personnages secondaires dans ce livre sont peut-être plus importants
oui.
que le personnage principal ou les personnages principaux, parce qu'ils les nourrissent.
Mm-hmm.
On est dans un vase clos sur ce J'aurais aimé. Il y a ce milieu carcéral, ça finit par oui. être un vase clos. Même s'il y a une famille qui gravite autour, même s'il y a l'extérieur qui gravite autour, il n'empêche que le huis clos, ça reste le milieu carcéral. Et c'est, en fait, c'est l'apport des personnages extérieurs qui nourrissent ce huis clos, qui nourrissent le personnage principal.
Oui.
Si il n'y a pas, par exemple, Aurélie en tant que personnage secondaire, il n'y a plus le personnage principal, oui. finalement, ou les personnages principaux. Mm-hmm. Oui, elle est personnage secondaire, mais elle nourrit le huis clos, et donc ça fait un personnage prépondérant, je suis absolument d'accord.
D'accord. Est-ce qu'elle avait besoin de dire « maman » à Simone ?
Ah,
parce
oui.
que du coup, c'est pas sa mère. Hein.
Oui.
Est-ce que c'est aussi pour son équilibre, oui, son équilibre à elle ?
Ah oui, parce que, enfin, j'ai envie de répondre, j'espère ne pas tout dévoiler. Comme elle est maman, elle, je pense qu'elle a eu besoin d'avoir une maman pour assurer son rôle de maman à elle.
Mm-hmm.
Si, quelque part, c'est schématique, mais je ne serai une bonne maman que si j'ai une bonne maman à moi.
Oui, tout à fait.
Elle est allée chercher une racine pour faire un vivier, quoi,
oui.
pour faire un terreau, et
oui,
pour
oui,
pouvoir
oui, oui.
mettre sa vie à elle
mm-hmm.
sur une bonne terre. Quoi.
Mm-hmm. Bon, Aurélie, c'est la maman de Paul. C'est mm-hmm. un personnage nouveau. On mm-hmm. ne le connaissait pas avant,
mm-hmm.
Puisqu'il n'existait pas encore.
Oui.
Il est le fils naturel d'Aurélie.
Oui.
Dignement, elle veut l'élever, finalement.
Mm-hmm.
Et elle réussit.
Oui.
Ça aussi, c'est l'une ou la revanche de la vie pour Aurélie et pour Simone. Parce que ce petit être qui arrive et qui met de la joie finalement, parce que oui, Paul il est gentil, il réussit, il est...
Moi je pense que par l'arrivée de ce Paul, il y a, ah ben en fait on est comme tout le monde quoi.
Mm-hmm.
On a eu certes des histoires, on n'a pas pris le chemin de A à Z qui va le plus près en passant par B, C, D, etc.
Mm-hmm.
On a peut-être fait A prime, puis B moins 3, et puis C, et puis J, et puis K, et puis revenir sur C. On a peut-être pris des chemins un peu chaotiques, mais finalement, on a fait comme tout le monde. J'ai réussi à avoir une vie de famille, même si elle est un peu bancale, ben
oui.
je l'ai quand même eue.
Oui.
Ce gosse, il est heureux, je l'ai amené au bout, il a un travail, il aura même une vie à lui.
Oui.
Je pense qu'il y a, ah ben finalement j'ai réussi quoi,
ah,
cette
puis,
notion.
Paul lui rend bien aussi. Hein.
Ah oui, alors lui, si ça, j'avais eu un enfant, j'aurais voulu qu'il soit comme lui.
On va revenir un peu avec Philippe, c'est sa tutrice qui l'aide beaucoup,
mm.
il lui fait vraiment confiance
mm.
et elle fait confiance mm. à Philippe,
oui.
Puisqu'il dit lui-même, Philippe dit ne pas la décevoir.
Absolument, il ne veut pas.
Oui. Vous avez voulu dire que tout était possible avec ces deux personnages qui se font confiance l'un et l'autre et qui ne prennent aucun chemin de traverse.
Alors, ce personnage-là de conseillère d'insertion et de probation, c'est celui que j'aurais dû incarner si j'avais terminé ma formation. Mm-hmm. Donc, j'aime à dire que peut-être ce personnage, c'est un peu moi.
Ah.
Faut dire les choses. Quelque part, quand peut-être qu'elle a peut-être pas eu... alors là, c'est pas tout à fait moi quand même, mais un peu juste. Hein. Elle a peut-être pas eu une vie toute simplette, elle non plus. Ça ne se voit peut-être pas dans ce qu'elle est, oui. Cette conseillère d'insertion et de probation, mais au fond d'elle, peut-être qu'elle a eu cette vie un peu compliquée et que quelque part, quand son tour est venu de rendre l'appareil, si quelqu'un tend la main, il faut faire confiance. Après, si ça ne marche pas, eh bien, tant pis, on aura essayé. Il vaut mieux, comme on dit, vivre avec des remords que des regrets. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a cette forme, oui, de ben, « moi, je suis arrivée à me sortir de là ». Je vais t'aider à te sortir de ton truc à toi. Chacun son truc. Moi, j'ai eu des échecs sur certaines choses. Toi, tu as eu des échecs sur d'autres. Bon, ben, je m'en suis sortie. C'est ton tour, quoi. Je vais t'y aider. Je pense que c'est ça.
La prison, c'est une vie à part. C'est un monde à part. Vous l'avez bien exprimé depuis que nous avons commencé. Est-ce qu'Aurélie a été déçue un petit peu en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. D'apprendre que Paul... avec son CAP de cuisinier, vous voulez travailler dans une cuisine pénitentiaire.
Déçue, mais elle est dans une colère et une rage folle. Mais je pense qu'elle serait capable de lui arracher la tête si je pouvais pas me permettre d'être un peu triviale. Pour elle, c'est une hérésie. Comment on va faire ça, ce milieu-là ? Elle l'aborde, hein, pour toutes les raisons qu'on peut pas dire, mais en même temps, tout le monde, je pense, commence à s'en douter. Ce milieu-là, elle l'aborde. Peut-être même c'est elle qui il va y rencontrer.
Oui, peut-être.
Peut-être c'est elle qui va... Et donc, je pense qu'elle ne veut pas que cette vie d'avant glauque rencontre justement cette petite graine de vie là, qui est promise à un bel avenir. Mm-hmm. Et donc, je pense que c'est plus de la rage, une colère folle, plus que de la déception, moi, je dirais. Oui. Parce que franchement, enfin, elle est à bout, quoi. Comment
pourtant,
tu peux me faire ça ?
À ce moment-là, il n'avait pas de soupçon, il ne savait pas, puisque
lui, non, mais elle, oui.
Normalement, il était sur Bordeaux et Toulouse.
Tout à fait, tout à fait. Mais on peut soupçonner que peut-être elle, peut-être le savait-elle. Ou en tout cas, si elle ne le savait pas, elle connaissait ce milieu du fait que justement, il lui était arrivé ça.
Tout à fait, tout à fait.
Et donc, je pense que d'ailleurs, ce gamin, voulant embrasser cette carrière, a voulu, je pense, recoller un peu les morceaux de son histoire. Mmh. Parce qu'il a su, puisque quand il lui annonce qu'il va rentrer cuisinier dans une prison, elle lui dit, mais tu ne te rends pas compte, enfin bon. Oui. Et il lui dit, mais c'est ton histoire, maman, je la connais, mais ton histoire, c'est la mienne aussi. Et je pense qu'il a voulu recoller les morceaux, ce gosse.
Peut-être.
En voulant y rentrer. Mm-hmm. Recoller les morceaux. On m'en parle, mais je veux savoir d'où je viens, quelque part.
D'accord. Sylvette, qui elle est simplement une collègue de Paul qui est devenue sa femme.
C'est ça.
Ou c'est autre chose. Elle est gentille aussi.
Mais c'est ça. Elle je pense que c'est là patte. Aussi, ben, tant qu'on y est, on recommence une vie, ben, quelque part c'est la suite logique là aussi. Quoi, hein. On rencontre quelqu'un, on se marie, c'est la vie qui continue, c'est aussi basique que ça.
Oui.
Mais ça permet aussi de faire ce que c'est qu'un homme, c'est d'avoir une femme à ses côtés, ce que fait qu'une femme, c'est d'avoir un homme à ses côtés, ou en tout cas un conjoint, quel qu'en soit le sexe. Quoi.
Oui. On va revenir un petit peu sur Olivier aussi, puisque c'est le cours de page après page. Hein. Olivier, lui, il fallait s'en douter à un moment, il commet l'irréparable. C'est une vengeance froide, finalement. Pourquoi est-ce que Philippe n'en a rien dit ? Parce que lui, il le savait, par contre.
Ah oui, lui, il le savait. Et d'ailleurs, il est meurtri de garder ça pour lui. Il est meurtri à la fin, on le voit.
Est-ce qu'il n'aurait pas pu sauver encore une fois Olivier, comme il l'avait fait par le passé ? S'il avait parlé ?
Peut-être. Peut-être qu'il aurait pu le sauver. Mais je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mm-hmm. Et on ne peut pas sauver les gens malgré eux. Et je pense que Philippe arrivait à un certain âge, parce que déjà, quand même, il était âgé, usé, fatigué. Et je pense qu'à un moment donné, ça l'a submergé. Et il n'a pas eu la force de franchir un peu plus ce cap, et un cap de plus, et un cap de plus. Je pense que avoir, je ne peux pas dire le mot parce que sinon c'est dévoilé, mais avoir un personnage comme ça dans son histoire, c'est sans cesse remettre la confiance, c'est sans cesse qu'il faut remettre les choses à la place, c'est sans cesse qu'il faut recadrer. Je pense qu'à un moment donné, on est épuisé et que ben, fais ce que tu veux, quoi. Et il a laissé faire ce qu'il voulait. Je pense que c'est ça.
Oui.
Baisser les bras.
Oui. Oui, mais en fait, ça a eu de graves conséquences.
Ah, ben c'est sûr. Mais c'est sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le voit s'y abattu à la fin et disant que c'est pas comme ça que ça aurait dû se faire.
Oui.
Mais il n'y a plus la force. À un moment donné, on ne peut pas se battre. Peut-être que d'humain à humain, d'adulte à adulte, ils auraient peut-être pu s'aider. Mais là, encore une fois, Olivier n'est qu'une maladie.
Oui, c'est vrai.
Les armes ne sont plus les mêmes.
Oui. Karine, on ne va pas parler de l'épilogue, puisque c'est vrai que je l'ai trouvé bien, vous l'avez bien trouvé, bien déniché et bien fait. Je trouve que c'est très subtil.
Merci.
Et pour Paul, c'est aussi lui dire, ben, écoute, maintenant tu peux voguer de
c'est
tes
ça.
Propres ailes.
C'est ça.
Je l'ai pris comme ça.
Ben, c'est ça, c'est tout à fait ça.
Un beau livre, j'avoue que j'ai vraiment aimé le lire et parcourir toutes ces pages.
Merci.
Donc on va le laisser aussi maintenant à notre tour découvrir aux auditeurs.
Oui.
Le titre, c'est à travers ce titre que Paul comprend sa mère. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vraiment pensé. Hein. Est-ce que vous avez un autre ouvrage en route?
Oui.
Il est peut-être fini, on peut...
Il est fini.
Oui.
Oui. Donc, on peut en parler, si vous voulez, ou en tout cas l'ébaucher. Non.
Voilà, juste dire, c'est une histoire qui va se passer dans quel milieu?
Alors, il s'appelle La Clé,
oui.
Le prochain, et il se passe dans le milieu, on va dire, il n'y a pas de milieu. Oui. En fait, il traite de sujets forts comme la violence conjugale et la maladie d'Alzheimer.
D'accord, très
mais,
bien.
Mais... Oui. Nuancé.
D'accord, on ne va pas en parler plus. Ça fera l'objet d'une page après page.
D'accord, avec grand plaisir.
Karine, je voudrais vous remercier de nous avoir donné cette énigme de ce voleur de poule, parce que finalement, je trouve que le voleur de poule prend tout son sens dans ce livre-là, finalement.
Oui.
Parce que c'est vraiment le... En fait, ce livre, c'est la chute du voleur de poule, quoi.
Mais le problème, c'est que c'est vrai, vous avez raison, mais l'écrivant un en 2016 et l'autre en 2019, je ne pouvais absolument pas mettre l'un à la place de l'autre. C'était pas possible.
Voilà, donc le destin, souvent, ne tient qu'à un fil. Et là, c'est... Oui. Il tient qu'à un fil aussi.
Oui.
Et parfois, c'est aussi sa propre volonté que l'on met aussi de côté. Comment est-ce que vous avez vécu le point final de J'aurais aimé?
Deux niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, la difficulté que j'ai eue à faire une suite. C'est extrêmement dur de faire une suite, notamment quand il y a 3 ans d'écart entre deux livres. Par exemple, si je vous donne Voleur de poule et J'aurais aimé en même temps et que vous les lisez sans vous arrêter, c'est bon, vous ne verrez pas de... Vous verrez une continuité. Là où vous aurez fini la dernière page, vous prendrez la première et c'est bon. Moi, il y a 3 ans qui se sont passés. Entre-temps, donc, tous ces déboires dont je vous ai parlé. Ce qui a été très difficile pour moi intellectuellement, ça a été de remettre en place les personnages sans faire un placard. C'est-à-dire Philippe 2 points, Olivier 2 points, Aurélie 2 points. Il a fallu que petit à petit, je remette les personnages, que je les fasse de nouveau entrer en scène, pour que le lecteur qui avait laissé Voleur de poule en 2016 se remette tout le monde à sa place, remette l'échiquier à sa place. Donc ça, intellectuellement, c'est très fastidieux, très difficile. Ce qui est fastidieux et difficile aussi, c'est que quand on traite d'un roman, par exemple, Voleur de poule, et qu'on vous demande une suite après, souvent mes romans se situent à... dans la contemporanéité, quoi. Je veux dire, je ne fais pas des choses qui datent du siècle dernier. Donc, ça veut dire que quand on situe un roman dans nos jours-là, si on fait une suite, il ne faut pas se retrouver avec un roman qui se passe en 2040. Je ne fais pas de la science-fiction.
Oui.
Donc, ça aussi, intellectuellement, il faut le mettre en place. Donc, ça, c'était très, très dur. Donc, du point de vue de la forme, quand j'ai mis un point final, t'es bien contente parce que j'avais articulé tout ça et j'étais épuisée. Oui. Par contre, après, au niveau émotionnel, mais je me suis régalée parce que je me suis attachée à mes personnages. Et d'ailleurs, quand j'ai annoncé à mon entourage que je venais faire l'interview avec vous, et j'ai dit je vais prendre du plaisir à me replonger dans le livre parce que j'ai adoré mes personnages. Je les ai trouvés attachants, même le pire des personnages,
oui, c'est vrai.
Même
mais
les
c'est
pires.
Vrai, c'est vrai.
Ils ont pris corps, ils existent. On n'a pas la sensation d'être décharné. Non, on a l'impression qu'on peut croiser Philippe dans la rue demain. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. Mm-hmm. Donc, quand j'ai terminé, je me suis dit, bon, je les laisse, parce qu'ils ne m'appartiennent plus maintenant, ils appartiennent au lecteur. Mais j'étais très heureuse d'avoir fait ce chemin avec eux, d'avoir vécu avec eux. Donc vraiment, je pense que Olivier est schizophrénique, mais moi, ça ne va pas non plus. Hein.
En tout cas, merci beaucoup, Karine.
Merci à vous, Gisèle. C'est toujours un plaisir.
Montrer et présenter cette histoire tout en gardant aussi beaucoup de le secret du fond de l'histoire.
Il faut essayer.
Et pour ça, je vous remercie.
Merci à vous, merci à vous.
Continuez à nous distraire, continuez à écrire. Je vous laisse le mot de la fin.
Bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Gisèle, c'est toujours un grand plaisir que vous me faites cet honneur de me recevoir. Toujours un peu de trac quand j'arrive, mais avec votre sourire et puis vos questions vivantes, votre naturel, on arrive à se retrouver derrière un micro, à se dire c'est déjà fini, mais non, je veux rester. Voilà, donc c'est vous que je vous remercie. C'est
merci.
Vraiment vous. Merci à vous.
Merci à vous. Et vous avez choisi pour finir une chanson de Francis Cabrel, Le pays d'à côté.
Francis
Parce que
Cabrel.
C'était vraiment à côté.
Oui. Francis Cabrel, mais comme je vous le disais, ça je me souviens très bien vous l'avoir dit lors de la première interview, c'est mon Dieu sur Terre avec Jean-Jacques Goldman. Il a sorti un album le 16 octobre dernier, je ne l'ai pas encore reçu, je l'ai commandé mais pas reçu. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a jalonné toute ma vie, Cabrel. Et Le pays d'à côté, je vous invite à l'écouter. Pas que la musique, écoutez vraiment les paroles. Il se trouve extrêmement d'actualité, mais vraiment très d'actualité il y a quelques jours.
Mm-hmm.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, merci beaucoup.
Merci
Karine.
À vous. Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt. Merci, au revoir.
Quand la terre se fendit, c'était sous le règne des bandits qui avaient tout défiguré. Chaque ville entourée par son cortège de hangars, ses parkings alignés. Les autoroutes étaient pleines de camions en file indienne, de convois bloqués au péage. On se parlait presque pas, et chacun pressait le pas, son écran au ras du visage. Le pays d'à côté est couvert de nuages. On séparait par croyance les leçons d'autodéfense, les rues interdites d'entrée. La fumée ou le brouillard, impossible de savoir, chaque soir plus épais. On noyait dans du plastique des repas automatiques que la mer rejetait sur les plages. Braves gens dignitaires, tout le monde laissait faire par profit ou manque de courage. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Sous les pieds bousculés des moutons qui s'affolent, le berger à genoux qui cherche la boussole, et les loups affamés qui attendent au grillage. Tombé juste au milieu de la cour d'une école, l'arc-en-ciel démonté qui traîne sur le sol, et tout le monde croit à des enfantillages. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Couvert de nuages. se fendit, c'était sous le règne des bandits qui avaient bien prévu le coup. Bien tirer la couverture, profiter de la nature, disparu on ne sait où. Sous les casques et les enceintes, des télés jamais éteintes, tournaient le même message. Pardon de le répéter, mais y a pas lieu de s'inquiéter. Le pays d'à côté est couvert de nuages.
Le pays d'à côté est couvert de nuages.
Y a pas lieu de s'inquiéter, c'est le pays d'à côté. Le pays d'à côté qui est couvert de nuages.
Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur.